Bienvenidos a este informativo de Radio France
International. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde, Simon Bourtembourg.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, nous sommes avec Neidi Ribeiro de la rédaction d'RFI en portugais. Bonsoir.
Boa noite, bonsoir.
Vous nous parlerez de la situation dans l'Est de la RDC alors que les dirigeants d'Afrique australe se sont réunis ce vendredi pour un sommet extraordinaire. Avec nous en studio également, Vassile Damian, bonsoir.
Buona sera.
Chef du service en langue roumaine. Vous nous parlerez d'une véritable chasse au trésor. Trois bracelets et un casque en or prêtés par la Roumanie. Ils ont été volés le week-end dernier dans un musée aux Pays-Bas. Et pour finir, pour représenter la rédaction en cambodgien, toujours dans ce studio, Pizemam, bonsoir.
Sousdei.
Avec vous, il sera question de l'assassinat d'un ancien député de l'opposition de nationalité khmer et française. Il a été tué par balle au début du mois à Bangkok. Mais avant ça, l'actualité qui a marqué cette semaine par-delà les frontières et les langues, c'est évidemment les 80 ans de la libération d'Auschwitz, un événement largement couvert par les différentes rédactions de RFI. Neidi, vous avez interviewé Myriam Assor. Elle est journaliste et membre de la communauté juive à Lisbonne, au Portugal. Elle vient de publier son dernier recueil. Il est intitulé « Les Portugais sur la liste noire d'Hitler ».
Exactement, Simon. Le nouveau livre de la journaliste Myriam Assor révèle que des centaines de Portugais et des citoyens d'origine portugaise se sont retrouvés dans des camps de concentration nazis ou sont morts aux mains d'Hitler, malgré la neutralité du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale. Myriam Assor a souligné qu'ils n'étaient pas tous juifs et qu'il y a eu une négligence et des lourdeurs bureaucratiques de la part des autorités portugaises qui avaient une certaine crainte par rapport aux nazis allemands. L'écrivaine a même évoqué qu'un groupe de Portugais qui n'étaient pas juifs a été détenu à Vernet en France pendant environ 4 ans avant d'être déporté vers le camp de concentration de Dachau en Allemagne, où la plupart sont morts.
Et malgré cela, Neidi, la neutralité du Portugal a eu un impact sur le traitement des Portugais dans les camps de concentration.
Oui, la journaliste portugaise fait référence aux ressortissants portugais qui se trouvaient dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. Ils ont été placés dans un bloc où ils n'étaient pas obligés de travailler, même s'ils étaient malades et ayant perdu beaucoup de poids. Mais il y avait une différence ordonnée par Hitler, car ils venaient d'un pays neutre, le Portugal. Myriam Assor affirme que même si le gouvernement portugais, notamment le président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de l'époque, António de Oliveira Salazar, ne nourrissait pas des positions antisémites, la dictature portugaise n'a jamais pris la décision de sauver ces gens-là. Myriam Assor a mis 10 ans pour écrire ce livre dans lequel elle cite le cas de plusieurs Portugais et tisse leur courte biographie, comme celle de Raquel Batiste, de Lisbonne, tué dans le camp de concentration d'Auschwitz en Allemagne en août de 1942.
Là où ce lundi, les représentants de 53 pays avaient fait le déplacement pour une cérémonie de commémoration, Vassile, la Roumanie aussi a été représentée, mais à un niveau inférieur que celui qui était attendu.
En effet, la Roumanie a été représentée par la ministre de la Culture, alors que d'autres pays, par exemple la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou l'Ukraine, l'ont été à des niveaux beaucoup plus élevés. Ainsi, on a pu voir le président français Emmanuel Macron et son épouse, Laura Schall du Royaume-Uni, le chancelier Olaf Scholz et le président allemand Frank-Walter Steinmeier, ainsi que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky sur le site de l'ancien camp de la mort. La représentation de la Roumanie est une chose étrange compte tenu du rôle joué par les autorités roumaines durant la Seconde Guerre mondiale.
Que voulez-vous dire par là, Vassile ?
Eh bien, Simon, la Roumanie a joué un très grand rôle dans l'extermination des Juifs. Selon le rapport Wiesel, du nom de l'ancien prix Nobel pour la paix, Elie Wiesel, né lui-même en Roumanie, les autorités roumaines, civiles et militaires, ont été responsables de la mort de 280 000 à 380 000 Juifs et plus de 11 000 Roms durant la Seconde Guerre mondiale. Surtout, mais pas seulement, dans des camps de Moldavie et Transnistrie, territoire à l'époque sous autorité roumaine. Ça fait que la Roumanie a été le deuxième génocidaire après l'Allemagne nazie. On pouvait donc attendre une meilleure présence de la Roumanie aux cérémonies d'Auschwitz.
Et y a-t-il une explication à ce que certains qualifient de gaffe diplomatique ?
La Roumanie communiste a tout fait pour occulter ce passé noir des autorités roumaines durant la Seconde Guerre mondiale. Mais le régime de Ceausescu, n'oublions-le pas, est tombé il y a déjà 35 ans. Depuis, on n'a pas beaucoup avancé. Trop peu de gens connaissent l'histoire de leur pays. Seulement depuis un an, les élèves roumains étudient l'Holocauste. Selon un récent sondage, plus de la moitié des jeunes entre 18 et 30 ans ne savent pas un seul nom d'un camp de la mort. Cette méconnaissance de l'Holocauste explique aussi aujourd'hui les politiciens nationalistes d'extrême droite, notamment le fameux Călin Georgescu, finaliste des dernières présidentielles annulées in extremis en décembre, exprime des sympathies envers des responsables du massacre des Juifs, nie l'existence de l'Holocauste et font des déclarations antisémites. La justice non plus ne fait rien, alors que des lois qui punissent ces agissements existent. Dans ces conditions, manque donc d'éducation, impunité et manque de volonté politique. Il n'est pas étonnant que la Roumanie n'a pas été représentée qu'au niveau ministériel pour les commémorations des 80 ans de la libération d'Auschwitz.
Et cette année, plus que jamais, les commémorations de la libération d'Auschwitz étaient particulières. Pis et même, il s'agissait probablement du dernier anniversaire en présence de rescapés, puisque la plupart sont aujourd'hui centenaires.
Oui, en effet, Simon, la commémoration du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge a été très marquant. Il s'agit peut-être la dernière fois que l'on assiste à des livraisons de témoignages de la part des survivants qui nous racontent leurs souffrances dans le camp. Ce sera donc la fin de la transmission orale de cette mémoire.
Et plus que jamais, donc, le peuple cambodgien a lui aussi connu un génocide horrible. C'était pendant le régime des Khmers rouges. Y a-t-il un travail de mémoire concernant cette période sombre du pays ?
Non, malheureusement, un tel travail n'a pas été vraiment fait, ou au moins pas de façon collective. Le génocide au Cambodge sous le régime des Khmers rouges a une particularité, car il s'agit d'une forme d'autogénocide. Ce sont les Cambodgiens qui massacrent les Cambodgiens dans une folie idéologique. Il y a beaucoup de non-dits dans notre société, les gens ne veulent pas aborder ce sujet sensible. Et puis il y a aussi une certaine volonté d'avancer, de construire l'avenir sans revenir en arrière ou remuer les souffrances.
Mais quand même, il y avait un tribunal pour juger les anciens dirigeants Khmer Rouge, non ?
Oui, en effet, vous avez raison. Ce tribunal spécial a été créé sous la propulsion de l'ONU afin de juger quelques anciens dirigeants Khmer Rouge. Ces procès ont permis aux Cambodgiens d'affronter à son passé douloureux. Au cours de procès, les paroles se libèrent peu à peu. Au-delà du travail de justice, ce tribunal constitue aujourd'hui un lieu unique pour la mémoire du génocide perpétué par les Khmers rouges.
La suite d'Accent du Monde avec vous, Neydi Ribeiro. Nous revenons maintenant sur la guerre qui fait rage dans l'est de la RDC. Depuis dimanche, les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, sont entrés dans la ville de Goma. Neydi Ribeiro, c'est une conséquence de l'offensive éclair contre les villes autour de la capitale du Nord Kivu.
Oui, à la suite de cette offensive éclair, le président congolais a déclaré ce mercredi vouloir rassurer la population de son pays et a garanti qu'une réponse vigoureuse est actuellement en cours. Félix Tshisekedi a également critiqué l'absence de réaction de la communauté internationale et a mis en garde contre le risque d'une escalade aux conséquences imprévisibles dans la région. Le président congolais, qui quelques heures plus tôt était en Angola pour des consultations, la présidence angolaise a expliqué dans un communiqué que le déplacement de Tshisekedi à Luanda avait pour but d'analyser conjointement les prochaines étapes dans le cadre du processus de Luanda. Le président de l'Angola, médiateur de cette crise, a exigé le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, condamnant la prise de la ville de Goma. Juan Lorenzo a dénoncé la grave violation des accords de Luanda et a proposé un sommet d'urgence à Luanda dont la date n'est pas encore connue. Serge Kalundungu, coordinateur de l'Observatoire politique et social de l'Angola, reconnaît que l'Angola continuera à redoubler des efforts pour amener les partis à accepter le dialogue.
Do ponto de vista das autoridades angolanas e também um pouco de alguns países da região, a ideia é
Que dit-il, Neydi ?
Il explique que du point de vue des autorités angolaises et de certains pays de la région, l'objectif est de redoubler des efforts pour débloquer les canaux de dialogue et que l'idée de la paix viendra de la table de négociation impliquant les principaux acteurs, le Rwanda et la RDC. Il constate que le M23 est en position de force et, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, voudra également avoir une place dans la table de négociation. Jusqu'à présent, l'RDC a refusé de s'asseoir à la table des négociations avec le M23 et entend seulement discuter directement avec le Rwanda. Kigali, de son côté, affirme se considérer en danger existentiel tant que l'État de l'RDC abritera des groupes considérés comme hostiles, comme le FDLR, un groupe rebelle formé par des anciens génocidaires hutus.
Et Neydi, le président rwandais a lui haussé le ton, et ce face aux remarques de l'Afrique du Sud au sujet de la crise dans l'Est de la RDC.
Oui, en effet, après le sommet virtuel de la communauté d'Afrique de l'Est organisé par le président kényan William Ruto depuis le Caire, dont l'homologue de l'RDC était le principal absent, Paul Kagame a lancé un sévère avertissement à l'Afrique du Sud, accusant le président Cyril Ramaphosa et son gouvernement de déformer les faits sur le conflit en cours dans l'Est de l'RDC et suggérant que le Rwanda est prêt à la confrontation si nécessaire. Selon le journal sud-africain The Mail and Guardian, la déclaration de Ramaphosa fait suite à la mort de 13 soldats sud-africains déployés dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, les autorités sud-africaines ont imputé l'escalade de violence au groupe rebelle M23 et aux forces de défense rwandaises. Cette semaine, lors de la réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis rejoignaient les positions de plusieurs pays en condamnant l'offensive du Rwanda et du M23. Paris appelle jeudi les forces rwandaises à quitter instamment la RDC et le groupe armé M23 qu'elles soutiennent à se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est arrivé à Kigali, au Rwanda, après être passé par Kinshasa pour discuter de la crise dans l'est du pays. Oswald Mvoko, un analyste politique angolais, affirme que la communauté internationale aurait déjà dû condamner le Rwanda.
O Rwanda tem estado a desafiar uma organização de caráter mundial, tem estado a fragilizar ainda mais a posição.
Pouvez-vous nous traduire cette analyse?
Oui, il explique que ce n'est pas acceptable d'avoir un État accusé par les Nations Unies de soutenir le M23 sans que rien ne soit fait. Toutefois, il souligne qu'en fonction des différents intérêts en République démocratique du Congo, de la part des Français, des Américains, des Russes et des Chinois, il serait essentiel de comprendre si ce scénario d'instabilité favorise ces pays ou s'il nuit à leurs intérêts. Selon lui, si cette situation profite davantage aux intérêts des grandes puissances, nous risquons de voir la communauté internationale rester indifférente, car elle réalisera qu'avec ce scénario de conflit, elle aura beaucoup à gagner du point de vue de l'exploration minière.
Neydi Ribeiro de la rédaction d'RFI en portugais, merci à vous. Accent du Monde, RFI 18h23 ici à Paris, minuit 23 à Bangkok, la capitale thaïlandaise où Lim Kim Ya, un ancien député de l'opposition cambodgienne, a été assassiné. C'était le 7 janvier dernier. Pizemam, que sait-on concernant les détails et les circonstances de cet assassinat?
Oui, Simon, M. Lim Kim Ya, un ancien député de l'opposition âgé de 73 ans et qui dispose d'une double nationalité franco-cambodgienne, a été assassiné à Bangkok le 7 janvier alors qu'il voyageait avec sa femme française. À peine descendu du bus qui les emmène depuis la ville de Siem Reap, un tueur apparemment attendait son arrivée, a tiré 3 balles sur M. Lim Kim Ya, le tuant sur place devant les yeux de sa femme. Selon des images de caméras de surveillance et diffusé par les médias thaïlandaises, le tueur a pris la fuite en moto après l'avoir exécuté.
Et l'assassin a lui été arrêté au Cambodge.
En effet, la police thaïlandaise a tout de suite déterminé l'identité de l'assassin, un Thaïlandais ancien soldat de la marine thaï, prénommé Ekala Pinoy. Il a été arrêté par la police cambodgienne le lendemain dans la province de Battambang, proche de la frontière thaïlandaise. Le 13 janvier, l'autorité cambodgienne a transféré cet homme en Thaïlande selon la demande de la police thaï. La police thaï a aussi arrêté un autre homme thaïlandais, un ami de tueur qui l'a emmené en voiture vers le Cambodge. Toujours selon la police thaïlandaise, le jour de l'assassinat, le tueur était accompagné d'un homme d'origine cambodgienne qui s'appelle Pitkem Srin. Apparemment, le rôle de cet homme était d'indiquer au tueur qui était la victime. D'Interpol a émis une notice rouge selon la demande de l'autorité thaïlandaise pour arrêter cet homme. Et après les éléments de l'enquête, la police thaï a pu déterminer un lien avec un autre Cambodgien, Li Ratana Rasmei, qui serait le commanditaire dans cette affaire.
Et quel serait le mobile de cet assassinat? S'agit-il d'un assassinat politique?
C'est en tout cas l'avis de la famille de la victime. Au micro des AFI, Thomas Lim, le fils de Lim Kim Ya, croit intimement que son père a été victime d'un assassinat politique. Écoutons-le.
Quel est le lien entre les deux suspects cambodgiens, M. Li Ratanaramsay et M. Pik Kim Sri? Je pense que le seul lien, c'est la politique. Les deux étaient très proches du gouvernement. Un était conseiller auprès de Hun Sen, premier ministre avant. Le deuxième est le frère de Sros, Pik Sros, qui est aussi très proche du gouvernement, et aussi beaucoup de membres de la famille de M. Pik Kim Sri sont proches du gouvernement. Donc moi, le seul lien que je vois entre ces deux suspects cambodgiens, c'est la politique.
Et donc les deux suspects cambodgiens que la police thaïlandaise cherche actuellement ont un lien avec le gouvernement cambodgien?
Oui, effectivement, Pik Kim Srin, l'informateur à Bangkok, est le frère de Pik Sros, un membre très actif du pouvoir. Li Ratanaramsay, que la police thaïlandaise cherche, a été conseiller spécial de M. Hun Sen. Pour l'heure, les deux suspects cambodgiens sont toujours introuvables ou bien parce que la police cambodgienne ne veut pas les arrêter. En tout cas, le fait d'envoyer tout de suite le premier suspect thaïlandais vers la Thaïlande serait un moyen pour le gouvernement cambodgien de se débarrasser de la pression médiatique.
Merci à vous pour toutes ces précisions. Venons-en maintenant à la Roumanie et le monde politique roumain secoué ces derniers jours par une affaire de vol de chefs-d'œuvre et trésors nationaux, des objets d'une valeur inestimable qui ont été volés dans un musée aux Pays-Bas. Rappelez-nous d'abord ce qui s'est passé, Vassili.
Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, le musée Drenthe d'Assen, c'est une ville au nord des Pays-Bas, spécialisée dans l'antiquité, a été cambriolé alors qu'il proposait depuis 6 mois une exposition temporaire d'objets antiques roumains. Les voleurs professionnels, à l'aide d'explosifs notamment, ont réussi pendant la nuit à y entrer et sont repartis avec un casque en or, le fameux casque de Kotsofenech du 4e siècle avant Jésus, et 3 bracelets toujours en or datant du 1er siècle avant Jésus. La police hollandaise a déjà arrêté 3 suspect dans cette affaire qui, entre-temps, a pris un tournant politique en Roumanie.
En effet, le monde politique de Bucarest n'a pas attendu ces arrestations pour faire tout un scandale mettant à dure épreuve la coalition au pouvoir.
Le premier ministre roumain, Marcel Ciolacu, ou leader du parti social-démocrate, s'est déclaré d'abord révolté, indigné par ce vol d'objets inestimables du patrimoine roumain, avant de brandir la menace de demander aux Hollandais des dommages et intérêts sans précédent. C'est la totale responsabilité du gouvernement hollandais, a rajouté le chef du gouvernement roumain. Ensuite, les sociodémocrates ont accusé d'incompétence l'ancienne ministre de la Culture, membre du Parti libéral, coalisé au pouvoir avec les sociodémocrates. C'est sous son ministériat que les pièces ont quitté la Roumanie il y a 6 mois. Évidemment, les libéraux ont contre-attaqué, malmenant encore plus la coalition gouvernementale de Bucarest.
Et on imagine bien que l'opposition a dû profiter de cette guerre interne.
En effet, dans l'opposition, le parti nationaliste d'extrême droite, AUR, qui a le vent en poupe, a profité de cette cacophonie pour demander des têtes. Ce que l'actuel ministre de la Culture, une social-démocrate, s'est empressé de faire. Le directeur du Musée national de Roumanie, celui donc qui a prêté les fameux objets antiques au musée hollandais, a été démis de ses fonctions. Et le festival politique ne s'est pas arrêté là. Les extrémistes de droite ont ensuite proposé de ne plus jamais envoyer des joyaux roumains à l'étranger avant de supputer que le vol des Pays-Bas est en réalité le prix à payer par les Occidentaux pour avoir accepté récemment dans l'espace Schengen la Roumanie.
Et rassurez-nous, Vassili, il reste quand même encore des voix raisonnables dans ce pays?
Oui, mais pas trop et surtout pas assez audibles. Je vous propose l'une de ces rares exceptions, le fait que le vol du musée Drenthe a été politisé à l'outrance et par exemple l'avis de l'eurodéputé roumain Eugen Jen Tomac, au micro de notre collègue Cosmin Rușcior de Bucarest, il estime que la rhétorique exagérée des politiciens de Bucarest n'aide en rien la résolution du problème.
Întotdeauna când apare un subiect
Que dit-il là?
Alors qu'à chaque fois, dit-il, qu'apparaît un sujet dans lequel est impliqué un acteur étranger, les politiciens roumains essayent de cacher l'impuissance interne en politisant excessivement la question. L'affaire du vol du musée de Drenthe va probablement se résoudre après les récentes arrestations, même pas une semaine après les faits. Les passes d'armes et d'autres invectives entendues et vues au sein de la classe politique de Bucarest sont par contre de mauvais augure pour l'avenir de ce pays.
Vassili Damian, chef du service en langue roumaine de RFI, merci à vous. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde.